Europe 1, la France bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Dutheil.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Chaque jour de 13h à 14h, nous mettons en avant des Françaises et des Français qui ont des idées, qui osent. Et ensemble, on écoute le monde changer. Vous êtes au bon endroit pour découvrir des parcours de vie autour d'histoire entrepreneuriale. La France bouge sur Europe 1. On en parle avec vous, Emmanuel Dutheil. Bonjour Emmanuel.
Bonjour Elisabeth Assayag. Bonjour à toutes et à tous.
Chef du service économie d'Europe 1. Aujourd'hui, on va parler bio et soja.
Oui, ils ont cru au bio dès le milieu des années 70. Très vite, ils ont misé sur le végétal et le soja. Un pari osé pour Sojasun, mais un pari réussi. Qu'est-ce que la crise a changé dans nos habitudes de consommation? Le patron notamment de Sojasun est notre invité jusqu'à 14h.
Et après le soja, les insectes. Comment mieux nourrir les animaux? Et si on leur donnait des nutriments d'insectes? La réponse avec InnovaFeed. C'est la start-up, on la découvre d'ici quelques minutes.
Je vais vous proposer aussi, si vous le voulez bien, un petit lait d'amande. Et pour cela, nous allons découvrir la première coopérative d'amandes en France. Ce sera notre saga du jour vers 13h30.
Utiliser les coquilles d'œufs pour les transformer en poudre à destination de compléments alimentaires. C'est le pitch du jour avec Circule Egg. Ce sont les trophées de l'avenir. La France bouge. Rendez-vous à 13h45 pour les découvrir.
Et puis demain, on change de vie. On aime régulièrement mettre en avant à La France bouge des parcours exceptionnels. Lucille a été patineuse artistique de très haut niveau. Elle vient de se lancer dans la mode inclusive. On découvrira son parcours en fin d'émission.
Allez, bienvenue dans La France bouge, c'est parti, nous sommes ensemble jusqu'à 14h.
Europe 1.
Et on parle donc bio, soja et de tout cela avec notre grand témoin du jour jusqu'à 14h.
Bonjour Olivier Clanchin.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Vous êtes le président de Tribala Noyal et président de la Sojaxa. Et si vous êtes avec nous, c'est pour nous parler de cet extraordinaire marché de produits à base de soja dont vous êtes les pionniers avec Sojasun. Mais pas seulement, hein, vous faites aussi des produits à base de coco, d'avoine, d'amandes. Votre entreprise, c'est aussi la marque Vrai qu'on trouve dans les rayons frais, dans les supermarchés, Petit Billy ou encore Sojade. Tribala Noyal, c'est une entreprise familiale. Elle a été rachetée par vos grands-parents en 1951. Vous êtes la troisième génération, mais c'est une entreprise qui existe depuis le 19e siècle. Plus de 1200 salariés. Alors Olivier Clanchin, comment vous portez-vous dans ce marché où les habitudes alimentaires ont changé, hein, on peut le dire, depuis ces deux années de crise sanitaire?
Ben bonjour, ravi d'être avec vous. Comment je me porte
Est-ce que ça va bien?
Oui, ça
va. Vous allez bien? Vous êtes content d'être là
bien.
Déjà
je suis content d'être là.
Bon, ben ça part bien alors, cette émission.
Content de passer ce temps avec vous. Comment je vais? Je vais comme quelqu'un qui sort presque d'une période d'essorage, parce que je pense que la crise qui nous est tombée dessus était tellement inattendue. Vraiment, ça a été quelque chose de compliqué à piloter. J'ai la chance d'être dans cette industrie de l'agroalimentaire, qui est l'industrie de la vie, et donc qui, par cette logique de nécessité d'amener cette alimentation au quotidien à l'ensemble des Français et des habitants de cette planète, a été une mission importante. Donc ça a permis de mettre en avant et véritablement le rôle de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la distribution. Et c'est vrai que cette crise, c'est souvent, comme souvent le cas, c'est des accélérateurs, des accélérateurs de tendance. Et c'est vrai que sur la partie du végétal, on a vu cette accélération qui s'est poursuivie durant cette période.
Comment vous l'expliquez? Parce qu'on a pris le temps de découvrir des produits où jusque-là, on se disait « bon, allez, j'ai pas le temps, je verrai plus tard ». C'est ça qui l'explique?
Peut-être, mais je pense qu'il y a une logique de rééquilibrage quelque part. Il y a ces phénomènes un petit peu de cycle et de balancier. Aujourd'hui, les nutritionnistes, tous les nutritionnistes s'accordent que le bon équilibre nutritionnel, c'est d'être dans une logique 50-50 entre les apports de protéines animales et les apports de protéines végétales. Pendant des années, on est été plutôt sur un 70-30. Et donc là, il y a une tendance qui revient à un rééquilibrage. Mmh. Les nouvelles générations sont plutôt enclin à cela. Et on le voit, il y a un certain nombre
de... Mais quand vous dites que ça a été un accélérateur de tendance, ça veut dire quoi cette crise en tant que telle? Vous avez gagné, comme certains par exemple avec le numérique, plusieurs années sur votre développement?
Je pense qu'on a pris conscience quelque part de, je dirais, notre place dans cet univers, de pris conscience qu'on est aussi dans une logique de trouver un équilibre avec notre environnement. Et de ce fait, se dire qu'il y a des choix et des solutions qui font plus de sens aujourd'hui face aux enjeux de l'environnement, soit face aux enjeux de l'alimentation de la planète.
Alors, si vous voulez bien, on va entrer un peu dans le détail de vos produits pour que nos auditeurs comprennent bien. Donc, il y a une très forte part d'activité dans tout ce qui est végétal, hein, vous venez de le dire. Donc, le soja avec SojaSun, mais aussi des boissons à base d'avoine, de coco. Et vous avez aussi une partie avec du lait, du lait normal, hein, j'ai envie de vous dire. Aujourd'hui, qu'est-ce qui marche le mieux ?
Bah, je dirais que c'est le végétal qui est plutôt en développement. Après, il faut bien se rendre compte que le végétal reste petit, globalement.
Mais c'est lui qui est en train de faire une percée.
Exactement.
Face donc, à un lait bio, on l'a vu récemment, hein, la consommation de lait bio est en baisse.
Complètement. Donc, on voit qu'il y a quelque part dans une logique de rééquilibrage, comme je vous le disais. Globalement, quand on prend le marché des produits végétaux, on est à 3,5%. C'est deux fois moins que la bio, globalement, sur le marché national.
Donc, vous tombez bien, puisque vous étiez très précurseur. Vous vous êtes lancé dans le soja, Emmanuel le disait, dès les années 70. Mais pourquoi le soja ?
Alors, c'est cette logique d'être en proximité, donc avec, je dirais, des interlocuteurs que peuvent être les agriculteurs qui nous ont fait basculer vers la bio dans les années 75 et être après, grâce à cette bio, face à des consommateurs où le consommateur de la bio dans les années 80 était un consommateur militant qui était en quête. Et c'est ce consommateur militant qui nous a interpellés un jour en nous disant « Mais vous qui êtes une laiterie, est-ce que vous avez travaillé du lait de soja ?»
Mais c'était quand même un pari, elle a raison, Elisabeth. Complètement fou. Déjà, de faire ce premier virage vers le bio, alors vous dites la bio comme les puristes, mais vers la bio, on va vous suivre. Mm. Et puis derrière, d'accélérer à fond sur le soja, plutôt là au milieu des années 80. Mais à un moment où, disons-le franchement, personne n'en mangeait et pas grand monde pensait qu'il en mangerait vraiment un jour.
Il y a des convictions et un contexte, en fait. Hein. Mm. Si je reviens sur l'histoire du bio... je suis avec mon papa il y a quelques années et papa voit un agriculteur qui était un de nos producteurs de lait et il avait mis des cultures dans son champ et papa le voit et puis lui dit « André, qu'est-ce que t'as mis dans ton champ ?» et puis lui dit des haricots verts. Et papa lui dit « Tiens, tu m'en mettras une pochonnée. » Et André Collet qui lui répond à cette époque-là « De cela, j'en mange point. » Et là, ça a été quelque chose qui a surpris mon père et qui s'est dit « À un moment ou à un autre, c'est pas normal qu'il y ait un décalage entre... » ce que les producteurs ou les agriculteurs produisent et ce qu'ils consomment. Mmh. Et ça a été le départ de la bio. Mmh. Et c'est comme ça qu'on est parti dans la bio. Et par la bio, on a rencontré des militants, des gens qui étaient et donc qui nous ont interpellés sur ce sujet du végétal. Et dans le même contexte, on était dans les quotas laitiers en France, 85. Mmh. Et c'est parce qu'il y avait ces quotas laitiers qui nous réduisaient à la source, où mes parents s'étaient dit, il faut qu'on trouve d'autres ressources, d'autres matières premières. Et donc quand personne est venue nous interpeller sur ce jus de soja, ils se sont dit tiens, il y a peut-être quelque chose à creuser. Et puis quand on a regardé cette petite graine qui était peu connue au soja en France à l'époque, on s'est rendu compte qu'elle avait beaucoup de vertus nutritionnelles, très riche en protéines, et ça a été le déclic.
Juste pour revenir d'un mot là sur le lait bio, pourquoi et comment vous expliquez qu'on en consomme moins aujourd'hui? C'est-à-dire qu'il y a une croissance très forte qui s'est effondrée, un peu à la surprise générale, il faut bien le dire, ces derniers mois, au point que beaucoup de producteurs, on peut citer le cas de Lactalis par exemple, met du lait bio dans du lait conventionnel, vendu auprès du conventionnel, parce qu'il n'y a pas assez de débouchés. Ça paraît fou, vu tout ce que vous nous racontez depuis le début de l'émission.
Alors oui et non. Faut bien se rendre compte que le marché du bio, un petit peu comme le végétal, il parle de zéro. Donc c'est sûr qu'on est sur des logiques de forte croissance. Si on prend la bio depuis 3 ans, on était sur des rythmes de 20% de croissance par an, donc ce qui était énorme. C'est-à-dire qu'on doublait notre activité tous les 3 ans, considérable. Et donc... qu'il y ait des paliers, c'est presque un peu normal, quelque part.
Vous dites que c'est mathématique. Quoi.
On se pose un peu avant de redémarrer, d'après vous, c'est ça que vous dites ?
Il y a cette logique de cycle. Donc, on a déjà eu par le passé, en 2008, une logique de palier, ça s'est déjà fait. Ce qui est gênant dans la bio, c'est qu'on a des engagements à viser des producteurs de temps de conversion. Donc, ça veut dire qu'au regard des lectures du marché qu'on pouvait avoir il y a 2 ans, on avait plutôt une trajectoire de progression qui allait continuer. Et là, il y a ce coup de frein qui peut s'expliquer du fait de la crise. Et donc, on a cette matière première qui continue à progresser et un décalage, un déphasage. Après, on sait que le bio peut devenir conventionnel. Le conventionnel ne peut pas devenir bio.
Au moins dans ce sens-là.
Et de ce fait, on est habitué, les gens du bio, à avoir toujours plus de matières premières que de marché pour répondre à la demande,
enfin, quand on
à
pense
la saisonnalité.
À tous ces agriculteurs qui viennent terminer leur conversion dans le bio, là, après 3, 4, 5 années de conversion, ils doivent être un peu déçus tout de même de voir que finalement, on a atteint un plafond là, au niveau du lait bio.
Oui, mais généralement, ben, en tout cas, ce qui s'est passé pour Tribalan Royal, c'est que nous aussi, on s'est engagé vis-à-vis de ces producteurs dans la conversion, c'est qu'on s'est engagé à acheter le prix
au
correct.
Prix initial.
Ben, voilà.
Et ben,
donc,
voilà. La crise accélérateur de tendance pour Sojastone, hein, le végétal qui prend une place de plus en plus importante, c'est ce que vous nous dites, Olivier Clanchin. Vous êtes le président de Tribala Noyal, hein, c'est Sojastone, mais aussi la marque Vrai, Petit Billy ou encore Sojade. Et vous restez avec nous.
Europe 1. La France bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Duteil.
Et on parle bio et soja aujourd'hui depuis le début de cette émission, toujours avec Olivier Clanchin, qui est le président de Tribalan Noyal, qui est notamment le propriétaire de la marque Sojastone, mais également président de la Sojax. Alors c'est quoi, tiens, la Sojax? Ça, c'est l'association pour la promotion des aliments au soja français. On va donc continuer de parler tout cela tout au long de cette émission.
Alors certes, il y a le soja, les amandes, la coco, l'avoine.
Tout ce que vous adorez.
Moi j'adore ça, ils ont fait une percée dans les habitudes alimentaires, mais pas seulement. Il y a aussi les insectes, hein, qui arrivent timidement, mais sûrement, dans la nourriture de demain, aussi notamment pour nourrir les animaux. Bonjour Clément Ray.
Bonjour.
Vous êtes le fondateur d'Innova Feed, c'est une entreprise qui est fondée depuis 5 ans, vous êtes 3 associés. L'idée, si je comprends bien, c'est d'utiliser l'insecte pour nourrir l'homme, c'est bien ça, mais d'abord, vous passez par la case animaux.
Absolument. En fait, c'est presque aussi simple que redonner à l'insecte le rôle qu'il a dans la nature. Mmh. Le rôle de l'insecte dans la nature, c'est de recycler des déchets, transformer ces déchets en sol et, ce faisant, réinjecter des nutriments de la chaîne alimentaire pour nourrir des oiseaux, des poissons ou des petits mammifères. C'est un des principes de circularité de la nature. Et c'est ce principe qu'on veut réintroduire dans notre système alimentaire.
Et vous le faites, je crois, grâce à une technologie assez innovante, parce que vous avez mis en place, alors comment je pourrais dire, un élevage de ferme verticale dans laquelle les insectes grandissent, ils se reproduisent, et puis derrière, vous utilisez tout ça, notamment pour les poissons, par exemple, c'est ça l'idée?
Oui, exactement. Donc le marché que l'on adresse, c'est produire de la protéine à partir de ces insectes, protéines de très haute qualité, et de nourrir notamment des truites, des saumons, des crevettes, des volailles, qui naturellement, dans la nature, mangent des insectes. Et cette alimentation plus saine permet d'avoir des animaux qui se développent mieux, qui sont en meilleure santé, avec moins de recours, par exemple, aux antibiotiques.
Mais alors, ça donne quoi? C'est de la poudre?
C'est de la poudre de protéines qui est intégrée dans des granulés qui sont donnés aux animaux. Et l'idée n'est pas complètement nouvelle de réintroduire l'insecte dans la chaîne alimentaire. Ce qui est nouveau, c'est d'une part des changements réglementaires qui ont eu lieu depuis 2017. Depuis 2017, l'insecte est autorisé en nutrition des poissons. Et c'est également en fait le développement d'une technologie qui permet de le faire de façon plus automatisée, à plus grande échelle, pour pouvoir en faire une réelle alternative économique pour nourrir les animaux.
C'est une alternative, mais est-ce que cette alternative permet de mieux nourrir tous ces animaux? Parce que là aussi, on peut s'inquiéter sur la chaîne alimentaire de ce qu'on va manger derrière. Est-ce que ça les nourrit bien correctement, sans risque pour nous?
Je pense qu'il y a deux enjeux. Il y a les enjeux environnementaux et les enjeux de qualité des produits. Ces enjeux environnementaux, en fait, ils sont majeurs dans le système alimentaire. On sait que le système alimentaire, c'est 25% des émissions de CO2 globales, c'est 80% de la perte de biodiversité. Et il faut agir dessus. Par exemple, sur les émissions de CO2, il faut les réduire de 70% si on veut respecter les accords de Paris. Les insectes ont un plus faible empreinte carbone, plus faible empreinte environnementale que les produits qu'on remplace, notamment par exemple les farines de poissons qui sont utilisées pour nourrir des poissons. Farines de poissons, c'est des petits poissons pêchés en Amérique du Sud, en Afrique, réduits en protéines et qu'on utilise pour nourrir des poissons d'élevage. Ça, c'est le premier point. Après, il y a le deuxième point, c'est dans quelle mesure ces produits peuvent contribuer à faire des produits de meilleure qualité pour le consommateur. Un saumon qui a un meilleur goût, qui est moins riche en métaux lourds. Et ça, c'est des démonstrations qui ont été apportées. C'est pour ça que nos produits s'imposent progressivement au fur et à mesure que nos capacités de production...
Alors quand vous dites que vos produits s'imposent progressivement, vous les vendez à qui aujourd'hui?
Alors, on les vend à des acteurs qui fabriquent des aliments pour les poissons. Donc des gens comme Cargill, par exemple. Et on a fait le choix délibéré de travailler avec des leaders du monde de la nutrition animale. Donc on est encore une petite structure.
Mais ils n'avaient pas cette solution, eux, déjà?
Non, je pense que ces acteurs cherchent des solutions parce qu'ils sont tout à fait conscients des enjeux que j'ai évoqués. Mais ils ont besoin d'innovation, de nouvelles solutions pour pouvoir atteindre ces objectifs, faire des meilleurs produits avec moins d'impact environnemental.
Quand est-ce que vous pouvez, et vous avez peut-être envie, de développer des produits pour l'homme?
Alors, on croit tout à fait au potentiel des protéines d'insectes pour nourrir l'homme. ce qui est important, c'est d'avoir un cadre réglementaire qui fonctionne. Et ça, c'est nouveau, parce que depuis cette année, les insectes peuvent être commercialisés pour l'alimentation humaine. Et la proposition de valeur, elle est assez claire. Je pense qu'en fait, ce sera des poudres d'insectes qui vont être intégrées dans des steaks, par exemple.
Mais à quel horizon, d'après vous ?
Dans les 3 ans à venir, ça va commencer à se démocratiser.
On va intégrer des poudres d'insectes dans les...
Dans les steaks.
À quoi ça sert le steak? C'est déjà une protéine animale.
Donc, par exemple, les produits de Beyond Meat, de Impossible Food, les steaks qu'on appelle les steaks végétaux.
Ah, ok.
La
d'accord.
protéine d'insecte peut
pour
être un ingrédient.
Dans le végétal.
Ça peut être également, en fait, de la nutrition pour les sportives. Et parce que la protéine d'insecte a des propriétés nutritionnelles assez exceptionnelles, un profil dans l'acide aminé très équilibré et une empreinte carbone qui est plus faible que les autres produits.
Vous en mangez, vous?
Absolument, oui.
Absolument. Olivier Clanchin, vous êtes notre grand témoin du jour. Vous êtes le président de Tribala Noyal. Hein, c'est entre autres Soja Sun, Billy ou encore Vrai. Au début, quand vous êtes lancé dans le soja, on remonte, c'était donc il y a plus de 40 ans, il y avait un frein psychologique. Là, on parle d'insectes, on fait « oh, 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 est-ce qu'on va en manger ou pas ?» Mais c'était un peu la même chose, non, avec le soja à l'époque.
Ah oui, je pense
on voyait
que
pas l'intérêt.
Les gens ne connaissaient pas le produit. Donc c'était surtout une méconnaissance. Et même si avec la soja que ça, on a vraiment accompagné toute une démarche de filière de production.
Et l'association qui défend et qui promeut l'alimentation par le soja.
Exactement. On a 100% de notre soja qui est pour l'alimentation humaine produit en France. Et c'est vrai que les gens ne connaissaient pas. Et les quelques personnes qui connaissaient le soja, c'était ceux qui en donnaient à manger à leur vache. Donc, donc c'est vrai qu'il y a eu tout un travail de pédagogie.
Parce qu'aujourd'hui, quand on prend l'avoine, alors que c'est ce qu'on donne aux chevaux.
Voilà, mais c'est un travail de pédagogie, d'explication, de découverte. D'être un petit peu surpris aussi par le goût, de voir un petit peu comment le produit pouvait être intégré. Et puis, c'est un produit qui pouvait répondre à des besoins particuliers.
Il y a quelle vertu le soja, pour qu'on comprenne bien?
Pour moi, la vertu du soja, c'est que c'est déjà le végétal qui a le plus de protéines avec l'ensemble des acides aminés. Et puis, il a une logique, presque sa qualité, c'est son goût neutre. Ce qui peut être pris par certains comme un défaut.
Moi, je trouve ça fade.
C'est vrai que, voilà.
Moi, c'est dit. J'en mange très rarement, pour être honnête. Mais...
Donc, c'est vrai que le tofu, par exemple, c'est très fade. Et justement, ça peut être un super support. Et donc, moi, je vois des chefs qui s'éclatent avec ces produits-là parce qu'ils savent que c'est une matrice qui peut leur permettre d'amener une texture, un nouveau goût et qui peut prendre justement tous les goûts. Et si vous prenez un produit type un dessert avec du fruit, je dirais qu'il n'y aura pas de compétition entre le goût du soja et le fruit. Et donc, pour moi, le produit aux fruits, il sera au top comme ça.
Clément Rey, vous êtes le cofondateur d'InnovaFeed. Hein. Vous avez levé 140 millions d'euros récemment. Vous allez investir dans quoi avec cette somme?
Est-ce que c'est énorme?
C'est énorme, hein, ouais.
Je pense que l'enjeu, c'est la construction d'une nouvelle filière, d'une nouvelle industrie. Et le premier investissement, c'est la technologie. Comment faire pour élever à très grande échelle, de façon automatisée, des insectes? Je vous donne un seul chiffre dans notre dernier site. On est capable de collecter de façon automatique 20 000 œufs d'insectes chaque seconde. Et donc, on a plus de 150 ingénieurs qui travaillent sur la robotique.
Vous êtes combien de salariés aujourd'hui ?
300 salariés chez InnovaFeed, dont 150 personnes qui sont vraiment focalisées sur ce développement de la technologie. Donc, ces 140 millions nous servent à développer la technologie qui nous permettra d'être le leader mondial de cette filière qu'on pense très vertueuse pour l'environnement.
Et vous reviendrez nous en parler dans la France Bouche. Ça s'appelle InnovaFeed. Merci Clément Rey d'être venu nous en parler.
Et Olivier Clanchin, le patron de Tribala Noyal, en charge notamment de la marque Soja Sun, président de la Sojaxa, comme on l'a entendu, cette association qui défend l'alimentation par le bio. Vous êtes notre grand témoin et vous restez avec nous jusqu'à 14h.
Europe 1, la France Bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Duteil.
On parle aujourd'hui soja et bio avec notre grand témoin jusqu'à 14h. Ce grand témoin, c'est Olivier Clanchin, qui est le président de Tribala Noyal, en charge notamment de la marque Soja Sun. Merci de nous accompagner. On est très heureux, hein, comme chaque jour avec Elisabeth, de vous accueillir là autour de la table de la France Bouge de 13h à 14h. Alors, on est en pleine période de récolte du soja, notamment aux États-Unis. Et depuis ces derniers mois, ça fait partie de ces matières premières qui montent énormément. Est-ce que vous aussi, vous allez devoir, comme beaucoup d'industriels de l'agroalimentaire qui passent autour de ces tables de la France Bouge et qui nous disent « il va falloir qu'on augmente nos prix et quoi qu'en dise la grande distribution, c'est inévitable ». C'est ce que vous dites aussi ?
Ah oui, donc...
c'est un oui, cri du cœur.
Non, c'est une situation où c'est vrai que pendant des années, par la grande distribution, les entreprises ont pu développer des volumes et faire des économies d'échelle, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Et ça va faire 8 ans qu'on est en déflation sur l'alimentation en France. Quelle industrie en France aujourd'hui peut se dire qu'on aura vécu 8 ans de déflation Et on a un contexte de sortie de crise qui est très particulier, qui est inédit aussi sur ces logiques d'accélération, de déséquilibre, de manque de matières premières, d'inflation sur l'ensemble des produits, des emballages, des énergies, qui naturellement vont amener une logique d'inflation.
Si on est concret, on prend un paquet de 4 yaourts Soja Sun, vous pensez qu'il faut obtenir combien de centimes d'augmentation pour que ce soit à peu près correct pour vous ?
Nous, je pense qu'on doit être sur les 4-5 centimes. Donc, on va être autour de 4-5% d'augmentation nécessaire pour nos produits. Et donc, ça, c'est quelque chose qu'il faut qu'on puisse accompagner. Alors, c'est vrai que moi, j'entends la grande distribution parler de cette logique de crise et la nécessité de protéger le pouvoir d'achat. Mais ce que je voudrais rappeler, c'est que nous aussi, on peut créer du pouvoir d'achat aussi en achetant mieux nos produits auprès du monde agricole et en valorisant mieux le travail des collaborateurs au sein de l'entreprise. Et c'est par l'inflation aussi, la juste inflation, et pas rentrer dans des logiques de spéculation. Et là, je partage le fait qu'il ne faut surtout pas surenchérir ces démarches-là, mais d'avoir le juste prix quelque part. Et sortir du moins 10 ans pour aller vers le mieux 10 ans.
Mais est-ce que vous pensez que l'on produit assez de soja en France ?
Ah oui, donc alors oui et non. Oui, on produit assez de soja en France pour couvrir les besoins de l'alimentation humaine. Et non, on ne produit pas assez de soja en France pour couvrir les besoins de l'alimentation animale. D'où d'autres schémas et peut-être justement ces exemples qu'on a partagés sur les insectes, qui peuvent être une autre voie pour pouvoir amener des compléments sur la partie alimentation animale. Mais on a une forte dépendance aujourd'hui au niveau français sur l'alimentation animale. Aujourd'hui, il faut se dire que sur le soja, il y a 25% de la production nationale en France qui est fléchée vers l'alimentation humaine. Au niveau planétaire, on parle de moins de 5% du soja mondial qui est fléché vers l'alimentation humaine. Merci. Tout le reste part en nutrition animale. Et donc, en consommant du soja en France, et c'est ce qu'on porte avec la Sojaxa et l'ensemble des adhérents, on est véritablement dans un vrai levier pour freiner la déforestation importée aujourd'hui.
Vous parliez des producteurs. On sait qu'il y a un gros problème de rémunération au global des producteurs aujourd'hui en France. Il y avait une loi pourtant alimentaire qui était passée, qu'on a appelée la loi Egalim. Il va y en avoir une deuxième version d'ici quelques temps, parce que, disons-le franchement, ça a été un relatif échec. Parce que cette loi qui devait permettre aux producteurs d'être mieux payés, puisque ça devait partir du vrai prix de production de ces produits. Pourquoi ça n'a pas marché ?
C'est bien compliqué à expliquer. Je pense que je n'ai pas, en tout cas, la réponse précise à tout cela. Après, c'est vrai que ça a été mis en place. Le Covid est arrivé dans la foulée.
Parce qu'on a l'impression que la seule réponse, et vous le disiez un petit peu là sur les hausses de prix, c'est qu'au final, le consommateur paye plus. Parce qu'on a été trop habitué, nous aussi, à pas suffisamment payer d'une certaine manière. Parce que c'est dur à entendre quand on est consommateur de se dire mon panier, il va y avoir 4 centimes de plus sur les yaourts, il va y avoir X centimes sur la confiture, sur le café. À la fin, c'est quand même des euros pour quand même parfois des ménages qui sont extrêmement contraints à la fin du mois.
Oui, alors ce qui est vrai, et d'un autre côté, il faut se rendre compte que l'alimentation, si je dis qu'on a 8 ans de déflation, c'est que pendant 8 ans, les prix n'ont pas augmenté.
Vous savez bien qu'on s'en rend pas compte, nos consommateurs. On a toujours l'impression que c'est trop cher.
Je suis d'accord. Et donc c'est vrai qu'il y a le pouvoir d'achat, il y a le vouloir d'achat aussi. Il faut savoir aussi qu'on se rende compte qu'on a eu une offre qui s'est étendue sur beaucoup d'autres sujets, des services qui peut-être nous coûtent aujourd'hui dans nos dépenses. Mais je pense qu'aujourd'hui, l'alimentation représente moins de 10% du budget des ménages. Alors que si on prend il y a 40 ans, on était sur une beaucoup plus importante proportion. Et qu'une petite augmentation de ce 10% du budget, si on augmente de 25% le prix de l'alimentation, si on passe en bio par exemple, on dit que ça fait plus 25%, ce qui est énorme. Mais 25% de 10%, ça ne fait qu'au final, ce qui est beaucoup aussi, que 2,5% du budget des ménages. Mais ce fait de pouvoir passer à aller dans une transition en bio, ça peut être aussi sur du moyen long terme des économies pertinentes et un cercle vertueux dans lequel la société peut s'installer.
On va aller un peu dans l'alimentation de demain. Vous le disiez tout à l'heure, la crise Covid vous a permis d'accélérer au niveau des idées, puisque vous êtes mobilisé, vous avez dû brainstormer, comme on dit. Alors ce sera quoi, Olivier Clanchin, la consommation alimentaire d'ici à 2035 ?
Ce qu'il y a, c'est qu'il y a beaucoup d'études aujourd'hui. Il y a cette contrainte du climat qui est une contrainte forte. Et moi, j'ai beaucoup travaillé avec l'étude AFTER 2050 qui fait un petit peu la trajectoire de qu'est-ce que peut être la production agricole, alimentaire et d'énergie au niveau d'un territoire comme la France. Et globalement, ce qu'il propose et ce qu'il imagine qui peut être cohérent pour être aussi dans les accords vis-à-vis du climat, et ben c'est d'une augmentation de la végétalisation de notre alimentation, donc de passer des 3,5% de notre marché à quelque chose qui pourrait être 20-25% et à terme peut-être 50%, donc avec un potentiel considérable de croissance, d'être dans une logique de consommer moins mais mieux, et donc de se dire qu'à un moment ou à un autre, tous les produits animaux être beaucoup plus allé vers du local, vers la tradition.
Mais vous avez mis au point des produits. Voilà, vous avez dit on va aller vers tel ou tel produit. Vous avez déjà des choses en tête?
Alors, après soja, finalement.
Ouais, non, alors,
après, c'est quoi le soja de demain?
Alors, le soja, nous, on travaille sur d'autres matières premières, donc on en a parlé, mais il y a le chanvre, par exemple, que je trouve très intéressant sur le fait aussi de se dire de quelle manière on peut relocaliser une production. Et on change la France dans les années avant 1871 était une très grosse productrice de chanvre, et on faisait du chanvre pour les cordages de bateaux, on faisait du chanvre pour les voiles et beaucoup d'autres choses. Donc on sait que la France, on peut produire du chanvre, et le chanvre a beaucoup de vertus aussi bien pour les matériaux que pour l'alimentation.
Donc ça, ce serait peut-être autour du chanvre qu'il faudra s'arrêter pour l'alimentation de demain. Alors chaque jour dans La France Bouge, Olivier Clanchin, on découvre une marque ou un endroit qui font la fierté de notre pays parce qu'ils traversent des générations, comme votre marque avec Sojasun, et ils sont toujours là. Aujourd'hui, je vous propose d'aller dans le détail d'un produit qui a le vent en poupe, c'est l'amande. On en consomme entre 25 et 30 000 tonnes par an. Direction dans le Gard, là-bas, on trouve la première coopérative d'amande de France.
Alors, on est loin d'être le premier producteur, notamment la Californie, l'Espagne sont largement devant nous. Mais il paraît que nos amandes sont peut-être de meilleure qualité que dans la plupart des pays. C'est en tout cas ce qu'a testé du côté de Sud-Amande notre reporter Quentin Paillet.
Europe 1. La France bouge. La saga.
L'amande est devenue un produit incontournable, vendu en vrac, utilisé dans les pâtisseries ou bien servi à l'apéritif ou même dans les gels douches et les shampoings. Cette petite graine, fruit de l'amandier, est partout. Elle est cultivée depuis l'Antiquité, mais elle fait un retour dans nos habitudes alimentaires depuis une dizaine d'années. L'amande est devenue un produit star. En France, elle est cultivée dans le sud, sur un territoire compris entre le Tarn-et-Garonne et la Corse. Hervé Bartelt, directeur de la coopérative Sud-Amande.
Bon, bien évidemment, on cultive surtout pour des raisons climatiques, compte tenu que l'amandier ne doit pas souffrir du gel de l'hiver. Voilà, il faut du soleil, il faut de la chaleur. Et puis, c'est le premier arbre qui fleurit à partir du mois de fin février. Donc, on suit un peu moins. Après, il y a des chaleurs, on arrive au printemps. Donc, l'amandier est tout à fait une culture propice dans nos régions.
Les 85 producteurs de la coopérative cultivent principalement 4 variétés d'amandes, la ferragne, la ferraduelle, la lorane et la mandaline. L'amandier est d'ailleurs l'arbre qui fleurit le plus tôt dans l'année, autour de fin février, et un arbre donne en moyenne 13 kilos d'amandes.
Le cycle de l'amandier, si vous voulez, à partir du moment où vous décidez de planter, donc il faudra à peu près 5 années avant que vous puissiez obtenir des fruits sur l'amandier. Bon, vous en aurez un petit peu en 3e année, 4e année, mais l'amandier sera à son potentiel à partir de la 5e année. La récolte se passe généralement vers, on va dire, mi-septembre. Donc, vous voyez, on est en pleine saison de récolte.
L'amande est prisée pour ses bienfaits en oligo-éléments, calcium, magnésium, oméga-3 et surtout pour son goût. La coopérative Sud-Amande les vend à des confiseurs, des dragéistes ou encore à des calissonniers.
Par rapport à sa taille, son poids, sa forme, va intéresser divers acteurs de la confiserie. Par exemple, la ferraduelle sera très prisée par les dragéistes parce qu'elle est assez plate, comme la lorane. Ensuite, vous avez la ferragnès qui est légèrement plus ronde, donc qui sera beaucoup plus appréciée par ceux qui vont les mettre en confiserie, qui vont les enrober de chocolat. Et ensuite, vous avez la mandaline qui a vraiment un très beau goût d'amande assez prononcé, donc qui va être plus pour la pâte d'amande et le calisson.
La France produit environ 500 tonnes d'amandes par an et la coopérative Sud-Amande, avec ses 120 tonnes produites chaque année, est tout simplement la première productrice d'amandes en France.
Et c'était la saga du jour réalisée par Quentin Paillet pour La France Bouge.
Olivier Clanchin, vous êtes le président de Tribala Noyal et le président de la Sojaxa. On va vous demander, si vous le voulez bien, d'accompagner, de coacher une entrepreneur qui se lance, parce que c'est votre expérience, votre expertise qu'on va vous demander d'appliquer. Vous êtes prêt ?
Prêt.
Europe 1. La France bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Dutheil.
On le voit, hein, s'il y a bien un secteur dans lequel on n'arrête pas d'innover, notamment en France, c'est bien ce secteur de l'agroalimentaire. Et on va continuer à découvrir tout cela à l'occasion des trophées de l'avenir Europe 1. La France bouge chaque jour. Elle ou ils tentent de vous convaincre. Et pour ça, ils défendent leur dossier devant l'œil exigeant de notre témoin du jour. Grand spécialiste de la matière aujourd'hui, Olivier Clanchin, qui est le président de Tribalan Oyal, qui a notamment... On vous le dit hein, depuis le début de l'émission, la marque Sojasun. Et puis nous retrouvons notre spécialiste, bien évidemment, en charge de l'entrepreneuriat à la Chambre de commerce et d'industrie, Nathalie Carré, qui, une fois de plus, j'en suis certain, va nous apporter ses précieux conseils.
Et un projet d'entreprise dans la France bouge, lancé il y a un an et demi. C'était en plein confinement. Bonjour Justine Lecallier.
Bonjour à toutes et à tous.
Bonjour. Vous avez 24 ans, vous êtes la cofondatrice de Circule Egg. C'est une solution pour revaloriser les coquilles d'œufs. Comment utiliser les coquilles d'œufs ? Eh bien, vous allez tout nous raconter. Vous avez une minute pour votre pitch. C'est parti.
Effectivement, dans une démarche d'économie circulaire, Circulegg valorise les coquilles d'œufs issues de l'activité des casseries. Pour information, les casseries, ce sont des usines en France qui cassent les œufs en deux pour revendre le blanc et le jaune aux industries agroalimentaires et qui rejettent chaque année jusqu'à 40 000 tonnes de coquilles d'œufs. Et ces coquilles d'œufs, aujourd'hui, sont peu valorisées. Elles sont soit incinérées, ou alors jetés dans des bennes ou épandus, alors même que c'est un véritable trésor. En effet, la partie externe contient du carbonate de calcium et la petite membrane interne, cette pellicule blanche, contient des biomolécules d'intérêt, du collagène, de l'acide hyaluronique. Et donc nous, on a développé une technologie brevetée pour récupérer d'une part la poudre de coquille externe et la petite membrane sous forme de poudre qu'on revalorise auprès de d'autres filières, compléments alimentaires, nutrition animale, cosmétiques. L'idée, c'est vraiment de créer de nouveaux liens entre les filières qui n'existaient pas auparavant.
Bah dis donc, chapeau pour vos pitchs, on comprend
tout.
C'est
hyper clair. Hein.
Le seul truc qui manque, c'est comment un jour, alors vous avez 24 ans, comment il y a 2 ans, vous vous dites, tiens, moi je vais faire ça de ma vie.
Oui, alors on est deux dans avoir, enfin c'est Yacine, mon associé, le fondateur également de Circulegg, qui est issu en fait d'un cursus à AgroParisTech.
On était allé sur la ferme d'AgroParisTech il y a quelques mois de cela.
Effectivement à Grignon, et on s'est interrogé sur les questions autour du gaspillage alimentaire, mais à l'échelle industrielle. Et c'est en discutant avec différents directeurs d'usines, et notamment le directeur d'une casserie. À l'époque, on ne savait pas ce que c'était.
Moi, j'ai découvert, je ne savais même pas qu'on cassait. Vous le saviez, vous, Elisabeth ?
Mais non, je l'ai découvert.
Et qui est confronté à un problème très important, puisqu'il faut savoir qu'en fait, la France est le premier producteur européen d'œufs. Et donc, ils sont confrontés à la valorisation de leurs coproduits. Et surtout, ils ont une pression réglementaire au-dessus de leur tête qui les oblige à trouver d'autres sources de valorisation.
Il fallait y penser quand même à cette pellicule. On l'a tous vu quand on casse un œuf, la petite pellicule entre la coquille
blanche
et le jaune.
Mais jamais j'aurais pensé que c'était utile. Hein.
C'est formidable. Franchement, vous l'avez très bien raconté. On va demander l'avis de Nathalie Carré, qui est en charge de l'entrepreneuriat à la Chambre de commerce et d'industrie. Bonjour Nathalie.
Bonjour Elisabeth, bonjour Justine, bonjour Emmanuel.
Coucou.
Elle vous a convaincu, Justine, enfin son projet ?
Ah oui, complètement.
Ah, c'est canon.
Complètement.
Hein.
Oui, oui.
Alors, quelles sont les forces et les faiblesses selon vous, Nathalie, de
Circulegg ? L'industrie cosmétique, pharmaceutique et d'autres ont vraiment besoin de ce qu'on contient la coquille d'œuf hein, et sa membrane, vous venez de dire. Donc, c'est génial, quoi. Plutôt que d'exploiter de nouvelles ressources, vous facilitez l'utilisation des ressources déjà existantes et vous protégez la planète. Alors, c'est simple à dire, mais enfin, c'était pas si simple à faire. J'ai vu pas mal de reportages avec pas mal de technologies, donc bravo pour celles que vous avez inventées. Et puis, deux fois bravo pour le total Made in France. Je crois que vous êtes les seuls en France à tout faire effectivement en France. Alors j'ai pas de point amélioré mais j'ai 2 suggestions peut-être pour sortir un peu du cadre et comme j'y connais pour le coup vraiment rien dans cette filière, je peux dire des âneries mais quand même essayons. Donc, en fait, vous êtes dans la même situation que les entreprises qui cherchent à récupérer les cheveux, les huiles de cuisson ou autres. Donc, certes, vous supprimez le coût d'élimination des coquilles, mais finalement, ce n'est pas très élevé, c'est 50 euros la tonne. Or, vous demandez aux casseries de modifier leur process pour vous y intégrer, même si ce n'est pas un changement important. En fait, qu'ont-elles à gagner à vous donner leurs déchets plutôt qu'à continuer avec leur système actuel ? Donc, peut-être qu'il y a un nouveau modèle à imaginer avec un partage de la valeur à inventer. Je ne parle pas de rémunération, mais plutôt peut-être un partage technologique, un partage de compétences ou des regroupements pour gagner des marchés à l'international ensemble. Bref, une solution qui apportera un bénéfice direct à la casserie au-delà de la planète. Et puis, si les infos que j'ai trouvées sont bonnes, les Français consomment 9 milliards d'œufs par an. À raison de 5 grammes de coquilles par œuf, ça fait quand même 30 000 tonnes de coquilles jetées par nous par an. Donc presque autant qu'en casserie.
Tu as même dit 40 000, Justine.
à l'échelle industrielle. 40
000 pour les casseries et nous, c'est 30 000 les individus. Donc en fait, ça fait presque autant. Donc rêvons un peu, dans notre supermarché, il y a des récupérateurs de coquilles d'œufs, comme on le fait pour les bouchons en liège ou les piles. On met ces coquilles, on récupère peut-être quelques centimes sur la carte de fidélité du magasin, par exemple, et vous récupérez nos coquilles. Alors certes, la logistique n'est pas si simple, d'autant qu'il s'agit de denrées périssables, mais il y a peut-être une innovation à trouver, car le volume est quand même intéressant. Mais au-delà de l'innovation sur la solution technique, pousser l'innovation aussi sur toute la chaîne de valeur et sur les services pour vraiment devenir les leaders européens de demain.
Bah, dis donc.
Ça, c'est du boulot, Nathalie. Hein. Mais on sent que vous avez, vous avez vraiment validé ce projet.
Et puis on a juste une face à nous, je vous la voyais hocher de la tête à chaque proposition. Ouais. Un petit peu moins, il faut le reconnaître, sur la récupérer nos coquilles d'œufs à titre personnel.
Ouais. Que dit notre patron du jour, Olivier Clanchin, président de Tribala Noyal et président de la Sojaxa? Là, on est sur un autre sujet, mais on est toujours sur cette alimentation, cette nutrition humaine et animale. Quel regard portez-vous sur le projet de Justine?
Bah, j'adore, hein. Donc moi je trouve ça top, tout ce qui amène aussi à cette logique de circularité. Chez Tribala, on a cette croyance justement où, de se dire qu'une contrainte, ça peut être une opportunité. Et en tout cas, c'est ce que je ressens dans ce qui a été vécu et ce que vous avez porté. Après, à chaque fois, je me dis qu'il y a derrière ces enjeux-là, il y a une logique de cercle vertueux aussi à faire autour de vous. Parce que être seul avec son brevet, ben, c'est une vraie belle protection. Mais il y a comme on partageait les logiques de fournisseurs et de clients. Et je trouve qu'il y a quelque chose de vertueux à construire, à co-construire dans cette logique de création de valeur partagée.
Ça s'appelle...
Donc bravo.
Bravo, hein, bravo à vous. Merci, ça s'appelle Circuleg. Merci Justine Lecallier d'être venue nous présenter votre solution pour revaloriser ces coquilles d'œufs. Merci à vous.
Et si vous aussi vous voulez venir présenter votre entreprise, une seule adresse, mais le1-lafrancebouge@europe1.fr, et vous aurez comme ça peut-être la chance de faire partie de nos candidates ou de nos candidats en route pour les trophées de l'avenir Europe 1, La France Bouge.
Suite et fin de votre émission, Olivier Clanchin, vous restez avec nous encore quelques minutes. On va écouter un changement de vie. Vous allez voir, ça va être passionnant.
Europe 1. La France bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Duteil.
Ah là là, ça passe chaque jour trop vite. Dernière partie de votre émission avec Olivier Clanchin, qui est le président de Tribala Noyal, qui a notamment cette marque Sojason, entreprise familiale. C'est votre grand-père qui avait racheté l'entreprise. Et aujourd'hui, vous êtes l'un des leaders en France de tout ce qui se fait, bien évidemment, à base de soja.
Et sur Europe 1, on écoute le monde changer. On vous écoute oser avoir de l'audace de prendre des décisions majeures dans votre vie. Ils ont changé de vie. Bonjour Lucille Gerfaux-Valentin.
Bonjour.
Vous avez 35 ans, vous êtes en Haute-Savoie. Vous avez été patineuse artistique de très haut niveau pendant longtemps. Aujourd'hui, après un CAP couture, vous vous êtes lancée dans la mode inclusive. Et tout ça en ayant été hôtesse de l'air pendant 10 ans. Quel parcours ! Ça nous a impressionnés avec Emmanuel. Qu'est-ce qui vous a poussé à passer de patineuse à hôtesse de l'air à cette mode inclusive ? Que s'est-il passé ?
Que s'est-il passé ? Je pense que déjà, patineuse, c'était pas quelque chose que je pouvais envisager sur le long terme, puisque mon corps commençait à arriver à la date de péremption, entre guillemets. Et donc, du coup, j'ai envisagé de prendre un parcours professionnel plus classique. Donc, du coup, je suis devenue hôtesse de l'air et je pense que mon premier déclic, j'ai très vite senti, si vous voulez, que j'étais pas forcément exactement au bon endroit. Et du coup, mon premier vrai déclic, ça a été quand il y a eu un crash aérien dans la compagnie dans laquelle je travaillais.
Ça vous marque encore longtemps.
C'est exactement ça. En fait, l'accident du travail, ça m'a permis surtout de me déconnecter des avions et de sortir vraiment du système et de me rendre compte à quel point je n'étais pas bien quand j'étais dans un avion. Et de me reconnecter, d'avoir plus de temps pour moi aussi, et du coup de me reconnecter un petit peu à mes passions d'enfant qui étaient notamment, entre autres, la couture. Et là, pour la première fois, j'ai vraiment entrevu une porte de sortie. Je me suis dit, oui, là, je me sens capable de franchir ce pas. Donc, j'ai passé mon CAP couture, un diplôme de modéliste. Et à l'issue de ma formation, j'ai décidé de créer Maison Omnia, donc, qui est une marque de prêt-à-porter inclusive pour femmes, dont les vêtements s'adaptent à des problématiques de maladie, de handicap.
Alors, justement, ils ressemblent à quoi, ces vêtements? On a eu la chance de faire une marque qui même a été sacrée au Trophée de l'Avenir l'année dernière, qui était plutôt sur les personnes âgées, là, pour cette mode inclusive, avec notamment tout ce qui était un système de bavoir qui se transformait en foulard. Vous, qu'est-ce que vous proposez ?
Alors, l'idée, c'est vraiment de proposer des vêtements qui sont pratiques, qui sont éthiques, puisqu'on est fabriqué en France, on est sur des matières éco-responsables, qui permettent aux femmes de se sentir belles et bien dans leur corps. Et en fait, là, par exemple, notre t-shirt Perfect, lui, peut s'adapter à des problématiques de mobilité réduite au niveau des bras, d'hospitalisation, d'allaitement. Et tout simplement, on a mis des ouvertures intégrales au niveau des côtés, avec des bandes d'aimants. Et donc, visuellement, ce sont vraiment des vêtements qui ressemblent à n'importe quel autre. C'est vraiment par l'esthétique que je souhaite que les gens rentrent dans la marque.
Et non pas par l'utilité. Si vous aviez un conseil à donner à nos auditeurs qui ont envie de changer de vie comme vous l'avez été, hein, de patineuse artistique à hôtesse de l'air à créatrice de mode, c'est quoi votre petit conseil, ce qu'on doit retenir aujourd'hui ?
Ne te trahis pas. C'est-à-dire que je pense qu'on sait tous, au fond de nous, si on est bien ou pas dans son travail, dans son quotidien, de façon même plus générale. Hein.
Donc ne te trahis pas, c'est ce qu'on retiendra. Ouais. Merci à vous, Lucille Gerfaux-Valentin. Merci d'être venue dans La France Bouge. Merci à Olivier Clanchant. Merci d'avoir été dans La France Bouge. Vous êtes le président de Tribala Neuyane. C'est entre autres la marque Soja Sun ou encore Petit Billy. Et président de la Sojaxa. Et c'est la fin de votre émission. Emmanuel, nous on se retrouve demain avec un grand laboratoire français.
Oui, c'est le petit nouveau du CAC 40. Alors on va le reconnaître, il est totalement inconnu si je vous dis Eurofins, ce BioNice. Et pourtant c'est l'un de nos leaders mondiaux justement dans l'analyse de tout ce qui peut être en matière de biologie. Et on va les découvrir demain.
À demain, dans un instant le flash, suivi de Christophe Ondelat.